24 février 2022, nous apprenions l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Depuis cette date, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fait le choix de se sauver pour éviter le pire, de tout abandonner, de quitter leur pays pour rejoindre des contrées plus amicales, des pays qui pourraient les accueillir, leur offrir un toit. Ces migrants, ces familles déracinées, ont souvent laissé un proche, un mari, un enfant en âge de combattre pour essayer de sauver son pays face à l'attaquant. Certains d'entre vous ont probablement autour d'eux un collègue ou un ami qui a décidé d'accueillir chez lui un réfugié ou une réfugiée avec ou sans enfant. Nous n'avons pas tous eu le loisir d'accueillir ces réfugiés, mais comment faire pour aller plus loin? Comment faire pour amener un réel soutien à ces populations fragilisées alors que la guerre continue, que le conflit s'enlise et que le nombre de morts augmente? Et quelle place pour le digital pour venir en aide très concrètement aux populations ukrainiennes, celles qui a fui son pays, comme ceux qui y sont restés et qui vivent au cœur des affrontements. Pour mieux comprendre comment on peut utiliser vraiment le digital pour aider les Ukrainiens, l'invité de cet épisode du podcast est Alexandre Hernandez, le cofondateur du site EU4UA.org. Bonjour Alexandre.
Bonjour BPC.
D'où est venue l'idée de monter cette formidable initiative ?
Déjà, bonjour à tous. Merci à PPC de m'inviter sur ce podcast. Nous, en fait, on est des entrepreneurs. Donc, on vient pas du tout du monde des ONG, par exemple. On est quatre entrepreneurs. Donc, deux Français, un Belge et un Vénézuélien, basés dans quatre pays dans le monde. Et la startup qu'on a, on faisait, nous, du matching pour aider les gens à trouver du boulot. Et donc, le 24, le conflit a démarré. Le 25, on discutait entre nous. C'était le vendredi soir et on se disait, bon, comment est-ce qu'on peut aider? La première idée, ça a été de les aider à trouver du boulot. Et puis, on s'est dit très, très rapidement, au bout de 30 secondes, que non, ils n'ont pas besoin de boulot dans un premier temps. Ils ont besoin d'un logement, on va dire, plus sécurisé. Et donc, on s'est dit, on va utiliser une partie de notre algorithme de matching pour les aider à trouver un logement en Europe. Donc, on s'est tourné vers notre CTO, vers notre directeur tech, et on lui a demandé s'il pouvait développer un site en 48 heures. Et on s'est lancé le challenge de lancer le site dès le lundi. Donc, c'était le 28 février. Ce qu'on a fait, lundi matin, on lance le site et en fait, le site a eu un succès assez dingue parce qu'on a été parmi les premiers en fait en Europe. Et aujourd'hui, c'est plus de 100 000 Ukrainiens qui sont enregistrés sur le site. On a un peu plus de 48 000 familles d'accueil à travers l'Europe et on estime qu'on a logé entre 12 et 15 000 Ukrainiens depuis 3 mois.
Là, on a compris les fondamentaux, hein, la création du site. Vous êtes pris comment pour faire connaître ce site, pour faire en sorte que les Ukrainiens et les Ukrainiennes en aient connaissance et confiance pour s'inscrire et puis profiter des services qui étaient proposés?
Ce qu'on a fait, en fait, c'est que les deux premiers jours, on a uniquement lancé le site du côté des familles d'accueil. Parce que ce qu'on voulait, c'est que le jour où on ouvre le site pour les Ukrainiens, on voulait qu'il y ait déjà des familles d'accueil, enfin, en tout cas enregistrées. On a, en fait, par notre réseau. Donc, en fait, on a très rapidement collaboré avec la French Tech, par exemple, avec France Digital pour la France. Moi qui habite en Espagne, j'ai du réseau aussi ici. Donc, c'était le réseau, le bouche à oreille. Les gens ont commencé à en parler autour d'eux. Dès le lendemain, on est passé dans les échos. On est passé ensuite sur France 2 le mercredi. Et en fait, on a eu des retombées médias qui ont été très, très rapides. Dès la première semaine, on a eu quasiment une quinzaine d'articles qui parlaient de nous. Donc, on a eu assez rapidement environ 500 familles d'accueil, ce qui nous a, on va dire, crédibilisé le jour où, je crois que c'était le mercredi de la première semaine ou le jeudi, quand on a ouvert côté ukrainien. Voilà, ils ont vu que le site était en tout cas déjà sécurisé, on a fait des termes et conditions, on a fait le site le plus pro possible. Et en fait, rapidement, les premières familles ukrainiennes ont trouvé des familles d'accueil européennes. Très rapidement, il y a eu des premiers feedbacks qui ont été faits via les réseaux sociaux en disant, voilà, le site marche, je suis à l'abri en Pologne, en Roumanie, en Allemagne, etc. Et après, ça a fait boule de neige avec les médias, les réseaux sociaux, les recommandations positives. Et c'est ça, je pense, vraiment qui a fait que l'initiative, en fait, a pris un tel mouvement aujourd'hui.
C'est une première question de Sanjay. Il te demande, comment avez-vous géré la barrière linguistique? Est-ce que vous avez préconisé l'anglais ou vous êtes directement en ukrainien?
Oui, alors c'est une très, très bonne question. Moi, le premier, en fait, je pensais qu'en fait, l'anglais pouvait suffire. Et en fait, le vendredi, on a eu l'idée. Le samedi, moi, j'ai rencontré un volontaire qui s'appelle Ilya, qui est une personne qui est formidable, qui est ukrainien, travaille avec nous depuis le début. En fait, en Ukraine, les gens parlent assez peu anglais. Donc, tout de suite, on s'est dit, il faut que le site soit en ukrainien. Dès le lundi, on a sorti le site en 5 langues, dont l'ukrainien et le russe, parce que là-bas, les gens parlent ukrainien et russe. L'anglais, évidemment, il était là, mais plus en fait pour les familles d'accueil. Et au bout de 10 jours, le site était en 20 langues. Et voilà, ça, c'était quelque chose qui était assez important. Ça a été effectivement plus de boulot pour nous, mais c'était une condition sine qua non pour que ça marche. L'anglais uniquement n'aurait pas suffi, en tout cas, pour que l'initiative prenne autour de mouvement.
Jean-Emmanuel, il te demande, est-ce que c'était simple de changer votre algorithme ?
Ça n'a pas été très compliqué dans la mesure où, en fait, le matching entre la famille ukrainienne et la famille d'accueil, il était, on va dire, entre guillemets, relativement simple. Pour expliquer comment ça marchait, moi, je suis une famille d'accueil, j'habite à Marseille. Je vais dire, voilà, moi, je suis basé, alors uniquement Marseille, évidemment, on ne demandait pas l'adresse exacte. On disait combien de personnes on pouvait accueillir, 3 personnes. On disait, est-ce qu'on pouvait accueillir des enfants ? On pouvait mettre l'option d'accueillir uniquement des femmes. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes seules qui étaient prêtes à accueillir et qui ne voulaient pas forcément accueillir d'hommes chez elles. On pouvait se comprendre. Et après, on mettait quelques photos et une description. Côté Ukraine, on disait combien de personnes voyageaient. Il fallait une description des 3. Il y avait 3 personnes qui voyageaient. Quels étaient les âges et les sexes de chaque personne ? Et dans quel pays on voulait aller. On était uniquement basé sur ces éléments. Donc, tu vois, c'est en fait pas beaucoup de critères. C'est environ 4-5 critères. Donc, l'algorithme est un algorithme assez simple. Et nous, ce qu'on faisait et ce qu'on a dit vraiment depuis le début, c'est qu'on fait la mise en relation. Une fois que la mise en relation est faite, c'est la famille d'accueil qui choisit de répondre ou non à la famille ukrainienne. Et à partir du moment-là, nous, je dirais, notre travail est fait, la mise en relation est faite. Et donc, la famille ukrainienne et la famille européenne prennent contact, soit par email, soit par Telegram, soit par WhatsApp, et après s'arrange pour se rencontrer. Voilà, donc l'algorithme était, on va dire, on a fait quelque chose de plutôt simple, mais qui était suffisant pour que ça marche.
Allez, autre question, petite séquence émotion. Quel est le moment de bonheur que vous avez rencontré ? Est-ce que vous pouvez nous parler du premier moment où vous vous êtes dit « Waouh, là ça a du sens, c'est extraordinaire ce qu'on fait ».
Quand on a vu qu'en fait, on avait des premiers matchs, qu'on avait des validations côté famille d'accueil, Et surtout, en fait, je me souviens, au bout d'une petite semaine, on a eu une personne, une Française, qui habitait à La Haye, aux Pays-Bas, qui nous a contacté en lui disant merci parce qu'elle avait une personne ukrainienne qui arrivait chez elle le lendemain matin. Et c'est vrai que quand on s'est lancé, on savait pas du tout que ça allait prendre cette ampleur, on n'avait pas vraiment de prétention en lançant ce projet, surtout que ce n'était pas un monde qu'on connaissait vraiment, hein, ce monde-là. Et on s'était dit, si on aide une famille, on aura gagné. Et c'est vrai que lorsque le premier témoignage d'une femme ukrainienne qui arrivait à La Haye, aux Pays-Bas, on s'est dit « Ok, entre guillemets, on a gagné notre pari ». Et puis après, ça a continué. Mais vraiment, c'est des témoignages en fait, des familles qui arrivaient, qui nous disaient merci pour cette plateforme, sachant que c'est un projet qui est complètement volontaire. Bon, bah, on était contents, en fait, tout simplement.
Qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui sont un peu intéressés, mais qui hésitent encore au fait d'ouvrir finalement la porte de chez eux à des personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ?
Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut le faire si déjà on a la réelle envie de le faire et ce n'est pas juste parce que mon voisin l'a fait. Il faut avoir envie de le faire. Moi, avec ma femme, on a accueilli une Ukrainienne, là, ça fait un mois et demi qu'elle est chez nous. Donc déjà, il faut avoir envie de le faire. Il faut avoir la place de le faire. Bon, c'est vrai que si on met à disposition juste un canapé dans le salon, on sait que ça ne pourra pas non plus durer 3 mois comme ça. Donc, il faut faire en conséquence et peut-être uniquement offrir pour quelques jours si on n'a pas forcément la place physique. C'est effectivement, nous, typiquement, cette fille, c'est la maison. Bah, on l'a aidée pour ses papiers, on l'a aidée pour pas mal de gens. Donc, c'est vrai, c'est aussi du temps, c'est de l'engagement. Et puis après, si effectivement vous voulez le faire, ils peuvent s'inscrire sur la plateforme. Dans tous les cas, c'est gratuit. Même si vous recevez des demandes d'Ukrainiens, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Et puis, de toute façon, l'édition finale vous revient selon justement le type de famille. S'il y a peut-être 2 enfants et que vous n'avez pas forcément la capacité ou peut-être l'âge ou la patience d'avoir des enfants, vous avez le droit de dire non de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on fait si on a vraiment envie de le faire. Si on n'a pas forcément envie ou la place de le faire, il y a plein d'autres moyens. Il y a l'association Ensemble Ukraine qui fait un boulot formidable, notamment sur l'envoi de dons matériels en Ukraine. Donc, on peut aussi aider comme ça. On peut aider en allant au centre d'hébergement pour aider les Ukrainiens à faire leurs papiers, par exemple. Donc, il y a 50 moyens d'aider les Ukrainiens. Et l'hébergement en est un parmi d'autres. Mais je peux comprendre que tout le monde n'a pas forcément, l'envie ou en tout cas la place matérielle de le faire, quoi.
Vous avez mis en place une plateforme de matching. Il y a un accompagnement qui est fait parce que c'est pas forcément facile. Quelqu'un arrive, parle pas la langue. On connaît peut-être pas d'ailleurs les codes, la meilleure façon de l'accueillir. Vous avez mis des notions un peu avec des conseils, quelques services derrière ou pas?
Ouais, on a effectivement des conseils à la fois pour les familles d'accueil, parce que c'est pareil, c'est nouveau en fait pour, je pense, 99% des familles d'accueil, ils l'avaient jamais fait auparavant. Donc on a des conseils sur des, on va dire, des règles d'attitude, notamment par rapport aux Ukrainiens qui sortent de pays en guerre, qui sont traumatisés. Donc c'est vrai que on n'accueille pas une famille ukrainienne de la même manière qu'on accueillerait un copain qu'on n'a pas vu depuis 3 ans. On a des conseils pour les Ukrainiens, notamment sur selon le pays, où est-ce qu'ils peuvent faire leurs papiers, où est-ce qu'ils peuvent faire toutes ces démarches administratives qui sont pas toujours faciles. Les sites des gouvernements sont pas toujours en ukrainien, donc on a mis beaucoup de liens en fait utiles pour eux. Et ensuite, nous, on n'a malheureusement pas la capacité de faire un accompagnement, on va dire, physique. Par contre, nous, on collabore avec pas mal d'ONG qui eux font le boulot plutôt terrain, local. Peuvent les aider typiquement lorsqu'ils arrivent au centre d'hébergement ou lorsqu'ils descendent du car et qu'ils arrivent dans une ville. C'est comme ça qu'on va les accompagner au mieux. Ouais.
Tiens, la question d'Aurélie, vous êtes-vous projeté sur la suite? Quel est l'avenir de la plateforme? Est-ce qu'il y a d'autres matchings post-guerre ukrainienne à venir?
Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a ajouté une autre section, une section jobs. Je ne sais pas si tu te souviens au tout début, là, quand je t'ai expliqué, c'était notre première idée de les aider à trouver un job.
C'est ça.
En fait, il y a à peu près un mois, au bout d'un mois et demi environ, on a commencé à avoir des premiers feedbacks parce qu'on parle beaucoup en fait aux Ukrainiens qui s'inscrivent sur la plateforme pour comprendre un peu leur situation. Et ce qui commence à arriver, c'est: ok, j'ai trouvé un logement en Europe, maintenant il faut que je bosse. Et même des Ukrainiens qui n'étaient pas partis d'Ukraine, qui avaient perdu leur boulot, me disaient: bah, il faut que je travaille. Et donc là, on s'est dit: ok, il va falloir les aider. Et donc là, on a ouvert il y a quelques jours et on va faire un gros push communication sur la section jobs directement sur la plateforme pour aider ces Ukrainiens qui sont arrivés en Europe ou certains qui sont restés encore en Ukraine à trouver un boulot. Et donc là, on commence à collaborer avec pas mal d'entreprises. Alors, ça peut être des boîtes type Brigade, par exemple, en France, ou alors ça peut être des plus gros type Manpower, type De Richbourg, avec qui on est en train de collaborer. Parce que ces boîtes-là nous disent: voilà, nous, on a des entreprises qui sont prêtes à accueillir des Ukrainiens, même des Ukrainiens qui ne parlent pas forcément français. Par contre, eux ne nous connaissent pas, donc on n'a pas de trafic sur notre site d'Ukrainiens prêts à postuler. Là où on leur dit: bah, nous, typiquement, le trafic, on l'a. On a eu quasiment près de 2 millions de visites depuis le lancement du site. On a près de 100 000 adresses email d'Ukrainiens. Donc voilà, on va servir de relais. De la même manière qu'on a relayé justement les familles d'accueil prêtes à accueillir, on va relayer les entreprises prêtes à embaucher des Ukrainiens pour qu'ils puissent travailler, même si ça risque d'être du court terme, parce que évidemment tous veulent rentrer chez eux rapidement. Mais en tout cas, si pendant peut-être 2-3 mois ils peuvent travailler, eh ben on va les aider.
C'est une question de Jean-Emmanuel. Avez-vous constaté une mobilisation générale des différents réseaux? Et pensez-vous que c'est aussi ce qui a fait le succès de la French Tech, ce maillage dense?
Alors, la French Tech, France Digital et le projet Galion, ils ont lancé l'initiative qui s'appelle Ensemble Ukraine, avec qui, quasiment dès le premier jour, on a collaboré et ça se passe très, très bien, surtout qu'en fait, on fait des choses complémentaires. Eux, ils sont plutôt logistiques. Nous, on a été plutôt sur la partie hébergement et maintenant jobs. Ouais, il y a eu franchement une forte mobilisation. Moi, j'ai été très, très, très agréablement surpris à quel point les gens ont été solidaires. Les gens ont donné de leur temps, de leur énergie, alors leur argent aussi. Hein. Il y en a qui ont participé aux différentes levées de fonds. Très forte mobilisation. La complication, c'est que bah, plus le temps passe, plus la mobilisation évidemment diminue. Et en fait, bon bah voilà, il y a d'autres choses qui se passent. Donc là, ce qui est dur en fait, c'est d'arriver à garder le cap pour continuer, parce qu'on en parlait juste avant de lancer l'émission PPC, bah malheureusement le conflit continue, donc c'est malheureusement encore loin d'être terminé.
Isabelle te dit bravo et te pose la question: est-ce que ce projet est aussi un mécénat de compétences?
C'est vrai que nous, quand on a lancé ça, on était 4. On est monté à quasiment, en 2 semaines, à peu près 220-230 volontaires avec des compétences complètement variées, parce que c'est vrai qu'on a eu des sujets que nous, on ne maîtrisait pas du tout. Je pense à la cybersécurité. On a dû sécuriser notre site parce que bah, naturellement, bon, les Russes en plus sont assez connus pour être des hackers plutôt bons. Donc il a fallu assurer le site. On a eu besoin de compétences diverses et variées que nous, on n'avait pas. Donc c'est vrai que ça a été top, parce que vraiment, on a fait des appels, notamment sur LinkedIn ou sur Twitter, sur des compétences. Et en fait, les gens nous, pour nous aider gratuitement une heure, un jour, un mois sur des sujets précis.
Allez, dernière question parce que cet épisode du podcast doit malheureusement toucher à sa fin. C'est la question de Vanessa. Prévoyez-vous d'étendre la démarche à d'autres peuples? C'est vrai qu'on parle beaucoup des migrants ukrainiens, mais il y a bien d'autres migrants qui ont les mêmes soucis. Est-ce que vous prévoyez d'étendre la démarche à d'autres peuples?
C'est vraiment l'idée. Alors évidemment, c'est vrai qu'on a dû, bon, quand on a lancé ça, ça a été uniquement sur l'Ukraine. C'est vrai que vu l'ampleur de l'événement, ça nous pousse à continuer. Et surtout, en fait, le retour qu'on a eu énormément, c'est que on a amené la brique technologique que les ONG n'ont pas forcément. Et même les ONG, nous, on a collaboré avec des ONG qui nous disaient, voilà, nous, on a des listes de familles d'accueil sur un Excel. On a des listes de réfugiés, mais c'est vrai que le matching, on ne sait pas forcément le faire. Et donc là, évidemment, si on peut amener cette brique technologique pour aider des ONG, des gouvernements et pour d'autres populations, parce que là, effectivement, on parle d'Ukrainiens, il y a déjà des migrants dans plein de pays. Il y aura demain, même déjà aujourd'hui, des migrants à cause du climat. Donc malheureusement, c'est un phénomène qui va s'amplifier. L'idée, c'est vraiment de continuer. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est vraiment focus sur l'Ukraine, mais pourquoi pas développer? Et même peut-être un jour, qui sait, peut-être monter une Civic Tech, par exemple, pour étendre ça au monde entier, ouais, pourquoi pas.
Des possibles sont ouverts, magnifique, merci à toi.
Merci beaucoup PPC pour l'invitation.
Merci à vous tous d'avoir participé. Si vous êtes intéressé et vous voulez aller faire votre part aujourd'hui, n'hésitez pas à partager ce podcast. Il y a un petit bouton pour partager auprès de votre communauté. Faites connaître cette initiative eu4ua.org, important, ouais. On se retrouve demain matin à 7h30. On va parler d'un tout autre sujet. Vous connaissez les personas? Vous savez, c'est archétypes. Voilà, c'est la façon dont on visualise les consommateurs. Ça marche pas mal en business to consumer. Et on va voir comment ça marche en business to business. L'invité demain matin à 7h30 sera Adeline Lemercier. Elle est responsable marketing chez Pledis, une solution de marketing automation made in France pour les startups, les ETI et les grosses PME. On se retrouve demain matin, 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.